Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h à Melbourne, vous écoutez Radio SBS et votre programme en français, SBS French. Je suis Marianne Murat, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une heure d'émission. On commence avec le journal, les dernières actualités, suivies du journal des sports. Ensuite, comme chaque jeudi, on ouvrira la page économie. Et en ce 14 juillet, on vous propose des reportages spéciaux fête nationale, Bastille Day, et ce sera en deuxième partie d'émission. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 14 juillet 2022. Le taux de chômage en Australie au plus bas en près d'un demi-siècle. Anthony Albanese au Fidji afin de renforcer ses relations avec les voisins du Pacifique. Un couvre-feu au Sri Lanka pour tenter de contenir les manifestations. Joe Biden en visite au Moyen-Orient pour la première fois depuis son élection il y a 18 mois. Et enfin du sport et la 11e étape du Tour de France hier, remportée par le Danois Jonas Vingegaard. Tous les détails dans le journal des sports de Jean-Noël Ducasse. On ouvre ce journal avec cette dernière information. On apprend que le taux de chômage a chuté à 3,5% en juin, au plus bas en 48 ans, en près d'un demi-siècle. C'est encore plus bas que les prévisionnistes prévoyaient. Anthony Albanese au Fidji, en marge du 21e Forum des îles du Pacifique. Le Premier ministre australien s'est entretenu hier avec son homologue des îles Salomon, trois mois après la signature du traité de sécurité avec Pékin, traité qui a fait trembler Canberra. Et bien, à l'issue de cette rencontre bilatérale, Anthony Albanese s'est dit, je cite, « très confiant » qu'il n'y aurait pas de base militaire chinoise dans les îles Salomon. Anthony Albanese qui veut également profiter de ce forum pour prouver que son nouveau gouvernement n'est en rien comme celui de son prédécesseur et que l'Australie va désormais faire des efforts en termes de relations dans le Pacifique et de changement climatique. On écoute le nouveau Premier ministre.
Le forum est un critical body pour nous, comme tous les membres de la famille Pacifique, pour pouvoir se gather et to listen to each other, to have respectful dialogue. And my government, of course, is relatively new. But we have begun very fast engaging with our new position on the areas like climate change and engagement with the Pacific.
Australie toujours, hein, et un rapport attendu de longue date et datant du précédent gouvernement Morrison vient enfin d'être dévoilé. Un rapport ayant pour objectif de mettre un terme définitif aux violences contre les femmes et les enfants, qu'elles soient domestiques, familiales ou encore sexuelles. On y retrouve les analyses de 500 praticiens et décideurs politiques. Tous soulignent la nécessité d'objectifs ambitieux, parmi lesquels notamment plus d'investissements dans le relogement et la reconstruction mentale. Si vous êtes victime de violences physique, de violence familiale, vous pouvez téléphoner au 1800 737 732, je répète le 1800 737 732, ou bien aller sur le site internet 1800respect.org.au, 1800respect.org.au, et bien sûr, en cas d'extrême urgence, vous pouvez téléphoner au 000. Pour clore cette page consacrée à l'actualité australienne, eh bien le virus monkeypox a été détecté à Canberra. Alors, c'est déjà depuis le 20 mai que la variole du singe s'est propagée sur le sol australien. Il s'agit là seulement de deux nouveaux cas, deux personnes de retour d'un voyage en Europe. Au total, l'Australie dénombre 28 cas de monkeypox. L'état le plus touché, c'est la Nouvelle-Galles du Sud, avec 17 contaminations confirmées. Actualité internationale à présent. Et le Sri Lanka a déclaré l'état d'urgence après la fuite du président aux Maldives, ainsi qu'un couvre-feu dans la capitale Colombo pour tenter d'apaiser les tensions dans la rue. Des milliers de manifestants défilent depuis plusieurs jours. Hier, ils ont même investi le bureau du Premier ministre, devenu président par intérim. On écoute la réaction du dit Premier ministre.
Even though we took steps to elect a president, some groups in the struggle planned to storm the Prime Minister's office, surround the Air Force Commander's house because he provided an aircraft for the President to travel to the Maldives, also to surround the houses of the Army Commander and the Navy Commander. That was an attempt to grab power.
Les manifestants demandent la démission des deux hommes politiques. Écoutez, cette personne, cette manifestante, elle était dans la rue et elle explique les raisons de sa colère.
Si le président et le premier ministre démissionnent, le président de l'Assemblée nationale devient président pour 2 semaines. Et c'est ce que nous demandons pour former un nouveau gouvernement. Normalement, le président et le premier ministre devaient s'exprimer devant les médias, au moins pour nous donner leurs intentions. Et au lieu de ça, ils se cachent. Nous avons donné un ultimatum à 13h aujourd'hui et l'heure est passée. Donc vous voyez de plus en plus de manifestants se rassembler sur la promenade. Le mandat du premier ministre n'a servi à rien, ça a été un désastre. Il est juste une marionnette pour protéger les Rajapaksas. Les gens ne vont pas se laisser faire. Moi, je suis mère de 2 enfants et je viens ici risquer ma vie car il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a plus de lait, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'essence. Certains pays sont prêts à aider le Sri Lanka, mais pas avec une telle instabilité politique. Il y a des gens qui aimeraient investir au Sri Lanka. Mais tant que ces voleurs de Rajapaksas seront au pouvoir, il ne se passera rien.
Autre témoignage, celui de cet homme, ce soixantenaire, il fait partie des manifestants qui sont entrés hier dans les bureaux. Il raconte en quoi sa colère n'est que décuplée depuis.
There has been so many things exposed.
Depuis la nuit du 9 juillet, il y a eu tant de révélations sur l'indécente opulence dans laquelle vivait notre président. Lui qui se prétendait vegan, se faisait servir de luxueux repas avec, par exemple, du saumon. De nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux montrent aussi sa collection privée de voitures dans le palais. Une 60aine de véhicules qui valent des milliards de roupies. On a aussi trouvé des dizaines de millions de roupies en cash. Cela a pris un jour de plus pour découvrir qu'il y avait aussi une chambre de torture pour interroger les opposants. Je crois que tous ceux qui y sont passés n'ont pas pu en revenir pour témoigner. On nous a volé notre argent, volé notre pays. Il nous faut stabiliser l'économie d'abord, mais je suis sûr que des lois internationales vont nous permettre de rendre aux citoyens de ce pays leur richesse.
Dans le reste de l'actualité mondiale, on le disait en titre, Joe Biden entame sa première visite au Moyen-Orient. Le président américain est arrivé hier à Tel Aviv. Objectif de ce déplacement, renforcer les relations avec les deux principaux alliés dans la région, Israël et l'Arabie Saoudite. Joe Biden qui a répété dans un discours prononcé dès son arrivée l'engagement inébranlable des Américains pour la sécurité de l'État hébreu. On l'écoute.
Greater peace, greater stability, greater connection. It's critical, if I might add, for all the people of the region, which is why we'll discuss my continued support, even though I know it's not in the near term, a two-state solution. That remains, in my view, the best way to ensure the future of equal measure of freedom, prosperity, and democracy for Israelis and Palestinians alike.
En marge de cette visite en Israël, Joe Biden devrait également se rendre à Bethléem pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Un déplacement lourd de symboles et qui déplaît fortement et forcément aux autorités israéliennes. Au Royaume-Uni, qui va succéder à Boris Johnson? 6 concurrents, 4 femmes et 2 hommes sont toujours dans la course après un premier tour de vote. Et c'est l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak, qui est arrivé en tête avec 88 votes. Le sujet des céréales ukrainiennes était au cœur des négociations hier à Istanbul entre trois délégations militaires russes, ukrainiennes et turques. La Russie et l'Ukraine ont avancé pour régler leurs différends sur le blocage des exportations. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, y voit là une lueur d'espoir et espère qu'un accord formel pourrait être atteint prochainement afin de libérer ces céréales bloquées, on le rappelle, dans les ports ukrainiens depuis le début de la guerre. Nikolai Petrov est chercheur à Chatham House. Selon lui, malgré les avancées, se débloquer risque de prendre du temps.
I think that first of all it will take a lot of time before certain technical preparations will be finished, even if certain agreement will be reached today, because it takes several weeks at least to demine Odessa and other Ukrainian ports.
Un point sur la météo australienne de cet après-midi. Il y a des averses à Perth, 20 degrés. C'est nuageux à Adélaïde, 15 degrés. Nuageux à Melbourne également, un Canton, 13 degrés. Il risque d'y avoir quelques averses à Hobart cet après-midi, 13 degrés. Il a fait plutôt moche ce matin à Canberra, mais du grand soleil cet après-midi, 12 degrés. Soleil également à Sydney, 16 degrés. Brisbane, 20 degrés. 23 à Cairns. Et enfin, grand beau, grand soleil, 29 degrés à Darwin. Le rappel des grands titres, le taux de chômage à 3,5%, taux le plus bas en 48 ans. Anthony Albanese au Fidji afin de renforcer ses relations avec ses voisins du Pacifique. Un couvre-feu au Sri Lanka pour tenter de contenir les manifestations. Joe Biden aux visites au Moyen-Orient pour la première fois de son élection. Voilà, c'est pour le rappel des grands titres. Tout de suite, c'est votre journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la 11e étape entre Albertville et le col du Granon qui a été remportée par le Danois Jonas Vingegaard qui prend aussi le maillot jaune comme nous l'explique Sofiane Amazian pour RFI.
Victoire éclatante de Jonas Vingegaard, sa première sur ce tour pour le coureur de l'équipe Jumbo-Visma. David Gaudu distancé une partie de la course, le Français termine cinquième de l'étape en s'offrant le luxe de doubler un Tadej Pogacar à la dérive dans les derniers kilomètres, il raconte.
Pogacar explose, je m'y attendais pas, mais je m'étais dit que vu les efforts qui s'étaient mis, les peignets qui s'étaient mis pendant 60 bandes dans les bosses, je me suis dit qu'il y en a forcément qui allaient craquer et ils se sont retrouvés un par un dans la montée et je les voyais au loin. Du coup, je me suis dit, faut que j'aille les chercher un par un. Et j'étais cherché Poga, j'étais cherché Yates. Il m'a pas manqué grand chose pour aller chercher Thomas, mais voilà, aujourd'hui c'était Granon, demain c'est l'Alpe d'Huez. Et mentalement, dans la tête, j'avais peut-être même plus l'étape de l'Alpe d'Huez dans la tête que l'étape de Granon aujourd'hui.
Et David Gaudu avec Thomas de Saint-Léger. Un autre Français s'est distingué, Romain Bardet, troisième de l'étape et nouveau dauphin au classement général. 12e étape, donc feu d'artifice attendu en ce 14 juillet entre Briançon et l'Alpe d'Huez.
Et la carte postale de cette 11e étape, l'accès au col mythique est difficile pour le public fermé aux voitures la veille de l'étape. Reportage Alexis Bédu pour RFI.
Sur un parking de zone commerciale à Briançon, un cycliste en perdition a un démonte-pneu à la main.
Bah, j'ai crevé encore une fois de plus et donc malheureusement j'essaie de réparer pour rejoindre la course. Juste au pied du Granon, là, au plus proche, si c'est possible, enfin si j'arrive à réparer d'ici là.
À 5 km du pied du col, Jean-Baptiste est encore loin de son objectif, mais le vélo est devenu le seul moyen d'accéder à ce prestigieux sommet le jour de la course.
Bah, moi j'essaie d'y aller en vélo, mais après monter en haut, ça demande en effet d'être très fort, donc c'est vrai que c'est un peu dommage si tout le monde ne peut pas y aller.
En haut des cols, désormais, on trouve principalement des cyclistes amateurs dotés d'un bon coup de pédale. Quelques randonneurs aguerris sont là. Pour les touristes et habitants des vallées, le kilométrage de barrière s'allonge un peu plus chaque année. Pierre Carré est journaliste spécialiste de cyclisme.
Ce grand lieu, ce grand chaudron, cette ébullition de spectateurs de part et d'autre de la route est en train petit à petit de s'évaporer. On ferme l'école la veille, parfois même l'avant-veille. Et tout cela pour éviter en effet qu'un attroupement, pour éviter aussi la consommation d'alcool. Disons que le Tour de France gagne en hygiène, en propreté, en sécurité, ce qu'il perd en popularité, en convivialité.
L'Alpe d'Huez et ses mythiques 21 lacets devraient tout de même ressembler au chaudron habituel. Les restrictions de circulation n'ont pas empêché les Hollandais de s'installer dès le week-end dernier dans leur fameux virage.
On passe au foot, l'Euro de foot féminin qui se poursuit avec la victoire de la Suède contre la Suisse 2-1. Les Pays-Bas ont battu le Portugal 3-2. Mardi, le Danemark s'est imposé contre la Finlande 1-0. L'Allemagne a battu l'Espagne 2-0. Foot, toujours la CAN féminine qui se poursuit au Maroc avec hier le début de la phase à élimination directe. La Zambie qualifiée sort le Sénégal 4-2 au tir au but après prolongation et se qualifie pour sa première Coupe du Monde de son histoire. On écoute la déception, la réaction du coach sénégalais Moussa Cissé sur RFI.
Forcément de la déception quand on ne gagne pas, surtout qu'il y avait de la place pour le faire. On a fait un match de bonne qualité. Je pense que sur la compétition, c'est le meilleur match qu'on a fait. Malheureusement, on le perd. On l'a bien contrôlé, on a marqué les premiers et sur des erreurs techniques, l'adversaire est revenu et nous a amené au tir au but. C'est vrai que sur le papier, cette équipe de Zambie qui a beaucoup d'expérience partait favorite, mais on a su élever notre niveau de jeu, on a su rivaliser avec elle. Je félicite les filles pour vraiment leur engagement, leur solidarité, le match qu'elles ont fait ce soir. Je suis un peu triste pour elles et pour nous et pour le Sénégal, parce qu'on voulait vraiment aller à cette Coupe du Monde. Mais il y a encore de la place pour y aller et on va se battre pour.
Les Sénégalaises peuvent encore rêver de cette compétition, mais il faudra d'abord remporter un match de classement le 17 juillet prochain. Et puis dans l'autre match d'hier, le Maroc s'est imposé contre le Botswana 2-1 et part en quart de finale. Ce jeudi, Afrique du Sud, Tunisie, Cameroun contre le Nigeria. Paul Pogba est désormais à la Juve de Turin. Les explications d'Antoine Grenier pour RFI.
Nouveau chassé croisé entre Manchester United et la Juve pour la pioche, c'est son surnom. Libre de tout contrat, l'international français s'est engagé pour 4 ans avec une Juve qu'il avait quittée en 2016 pour Manchester United contre une somme de 105 millions d'euros. Une expérience anglaise au bilan mitigé, mais que Paul Pogba ne regrette pas.
Yo credo al destino.
Je crois au destin, je suis content de tous mes choix, la vie est ainsi, parfois ça ne se passe pas comme on le voudrait, mais je suis content de ces années à Manchester. J'ai grandi, j'ai appris, je suis devenu un homme, ce n'était pas une erreur selon moi. Aujourd'hui je suis heureux d'être à la Juventus et je vis le moment présent.
Paul Pogba dont la mission sera de ramener la Juve au sommet du foot italien après 2 ans sans titre de champion.
Et puis en portugais, Rui Vitória est à la tête de la sélection égyptienne et on parle de l'équipe masculine. Sarah Loubacouche, RFI.
Des pharaons prêts à se relancer et pour cela ils comptent sur Rui Vitória, nouveau meneur des troupes. Le portugais arrive en remplacement de Ehab Galal sur le banc égyptien, le successeur de Carlos Queiroz qui n'avait tenu que 2 mois à la tête de la sélection, limogé après une défaite face à l'Éthiopie en qualification pour la CAN 2023. Une défaite au goût amer qui s'ajoutait alors à 2 désillusions majeures vécues sous l'ère Queiroz. Cette défaite en finale de la CAN au tir au but face au Sénégal en février, suivi d'un échec à valider leur ticket pour le mondial qatari, toujours face au Sénégal, toujours au tir au but. Rui Vitória est donc attendu de pied ferme pour redresser la situation. L'ancien coach de Guimarães et de Benfica vient de conclure une éphémère expérience sans éclat au Spartak Moscou. L'ex-milieu de terrain fera aux côtés des pharaons ses tout premiers pas sur la scène internationale. Reste à savoir si son passage sur le banc sera plus long que celui de son prédécesseur.
Un mot de basket pour vous dire que le pivot de Philadelphie, Joël Embiid, né au Cameroun, a obtenu la nationalité française. Les précisions de Christophe Diremzian pour RFI.
C'est un décret discrètement publié dans le journal officiel du 5 juillet qui doit faire saliver les fans français. Joël Embiid, né à Yaoundé, a beau n'avoir jamais vécu en France ni joué la moindre minute dans un club de l'Hexagone, il a vu finaliser une démarche mûrement réfléchie, quitte à susciter quelques débats sur le plan éthique. Dès 2016, le pivot des Sixers avait en effet déjà approché la Fédération française, initiative alors sans effet, mais début mai, le manager général des Bleus, Boris Diaw, confirmait qu'une procédure de naturalisation était cette fois bien en cours, tout en ajoutant que cela n'ouvrirait pas automatiquement les portes de l'équipe de France à la star de Philadelphie. Le sélectionneur tricolore Vincent Collet aurait pourtant tort de se priver de lui. Malgré une phase de play-off NBA perturbée par une blessure au pouce et une fracture au front, Joel Embiid a tourné à plus de 30 points et 11 rebonds de moyenne par match et ses 2m13 s'associeraient sans doute bien avec les 2m16 de Rudy Gobert dans la raquette. En tout cas, une telle perspective ne sera pas d'actualité pour l'Euro en septembre, la liste des présélectionnés ayant déjà été annoncée. Rendez-vous donc peut-être pour le Mondial de 2023 et les JO 2024.
La révélation d'un des grands athlètes du monde, le Britannique Mo Farah, 4 fois champion olympique pour Team Great Britain, et il dit avoir été victime de trafic humain quand il était gosse en Somalie, et un documentaire a été diffusé sur son histoire hier sur la BBC. Daniel Valo, RFI.
C'est l'une des plus grandes stars de l'histoire de l'athlétisme, auteur d'un doublé historique aux JO de Londres en 2012, puis de Rio 4 ans plus tard. Mo Farah révèle être arrivé illégalement en Grande-Bretagne alors qu'il avait 9 ans, sous une fausse identité.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Jusqu'à présent, Mo Farah prétendait avoir rejoint son père au Royaume-Uni avec sa mère et 2 de ses frères et sœurs. En réalité, son père est mort en Somalie alors qu'il avait 4 ans. Et lorsqu'il est arrivé au Royaume-Uni 5 ans plus tard, c'est accompagné d'une femme qui va lui donner un nouveau nom et le forcer à travailler comme domestique au sein d'une famille britannique. C'est son professeur de sport qui va finalement le sortir de ce calvaire et lui permettre de rejoindre une famille d'accueil digne de ce nom. Le reste de l'histoire est connu. Mo Farah va devenir 6 fois champion du monde du 5000 mètres, triompher aux Jeux Olympiques et acquérir la nationalité britannique.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la quiétude d'une caresse, comme une tonasie joyeuse, bien l'opposé de la détresse.
C'était un peu de mélancolie heureuse chantée par Team Dup. Comme chaque jeudi, on ouvre notre page économie. Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich parlent aujourd'hui d'immigration qualifiée. Une immigration afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs économiques. Restez sur SBS French.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Le gouvernement fédéral est en train de considérer de doubler le nombre d'immigrés qui viennent en Australie, qui sont qualifiés et avec des compétences spécifiques.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un manque de main-d'œuvre qualifiée, de spécifiques, de compétences spécifiques, et c'est devenu assez un problème assez grand pour l'économie. Et en fait, donc, il y a le trésorier Jim Chalmers qui dit qu'en fait, c'est un frein sur l'économie. Donc, il y a plusieurs groupes, des grosses compagnies, des business qui disent que ça serait bien de, au moins temporairement, doubler le nombre d'immigrés qualifiés jusqu'à 200 000. Et le trésorier Jim Chalmers a dit que pas une mauvaise idée, il pourrait bien y réfléchir, c'est quelque chose qui pourrait clairement aider l'économie, aider ses business, trouver des travailleurs qui ont ces compétences qui sont recherchées là. Il n'y en a pas assez ici en ce moment en Australie. Le taux de chômage est plutôt bas et donc les business veulent absolument voir ce taux d'immigration monter parce que bon, pendant la pandémie, au début, les frontières avaient fermé et bien sûr, l'immigration c'était complètement ou presque carrément arrêté complètement. Donc ça fait deux ans là qu'on n'a pas d'immigrants, beaucoup d'immigrés qui viennent. Et ça commence à mettre pression sur l'économie. Donc Jim Chalmers, il dit que le gouvernement veut parler, discuter avec ses business pour voir comment on peut les aider, ce qui serait la meilleure chose à faire. En même temps, les syndicats disent que si on fait venir plus de gens, il faut créer des opportunités pour ces immigrants, qu'ils viennent pas simplement en Australie pour être exploités et mal payés. Donc il faut les traiter correctement. Bon, en tous les cas, il y a presque un demi-million de jobs en Australie. Donc 500 000 postes qui ont besoin de ces travailleurs, beaucoup avec des compétences qu'on recherche. Et selon l'organisation internationale, l'OCDE, l'Australie serait le deuxième pays dans la liste des pays développés avec un manque de main d'œuvre. Donc c'est le deuxième pays le pire. Sur cette liste, avec le plus grand nombre de jobs qui sont recherchés. Ça ne serait pas étonnant de voir si, en fait, le taux d'immigration soit levé dans les semaines ou même les mois à venir par le gouvernement d'Anthony Albanese.
Et puis, on parle de l'année de 2021 qui a été très bonne, une très bonne année pour les PDG. On parle, j'imagine, des salaires qu'ils ont touchés.
Les compagnies coupaient les bonus de leurs PDG. C'était pas un moment pour les PDG de recevoir des millions et des millions de dollars pendant que tout le monde d'autre souffrait. Donc, leurs bonus ont été boupés. Mais là, c'est revenu à fond et c'était une des meilleures années jamais pour eux. Et donc, en moyenne, pour les 100 top PDG en Australie, ils ont eu en moyenne 2,3 millions de dollars en bonus, ce qui est plus que c'était en 2017, quand c'était juste un peu moins que ça. Mais en tête de la liste des mieux payés des PDG, c'est Anthony Eisen et Nick Molnar, qui sont eux tous les deux les PDG de la compagnie Afterpay, qui a été récemment vendue, ou il n'y a pas très longtemps, à une grande compagnie américaine. Et donc, leur paye officielle chaque année, c'est un peu plus de 3 millions, mais en fait, ils ont reçu chacun, en tout, les deux, 264 millions de dollars, plus de 100 millions chacun. Ils ont vendu des actions, des subventions équitables, des options, vraiment au très bon moment. Donc pour eux, c'était une très très bonne année. Et deuxième sur la liste, c'est Paul Perrault, qui est le PDG de CSL. Et CSL avait le contrat pour produire AstraZeneca. Bien sûr, le vaccin contre Covid ici en Australie. Donc, un très bon contrat. Ils ont aussi, une de leurs compagnies aussi a eu le contrat pour construire une facilité, un endroit pour produire des vaccins ici en Australie. Donc, pour CSL, c'était la pandémie les a rendus encore plus riches, bien sûr. Mais bon, il faut savoir que, bien sûr, même que les salaires des PDG et leur paye montent, pour la plupart des autres Australiens, leur salaire ne monte pas vraiment. Et surtout pas en même temps que le coût de la vie, l'inflation qui monte. Et puis, en fait, selon le Bureau australien des statistiques, pendant l'année dernière, le salaire en moyenne, les Australiens, ils ont reçu, les gens qui travaillaient à plein temps et qui travaillaient des heures supplémentaires, ils ont reçu à peu près 94 000 dollars. Et donc, ça, on voit que ce qu'ils ont reçu, Anthony Eisen et Nick Molnar de Afterpay, c'était 2800 fois plus que le salaire moyen ici en Australie. Donc vraiment, vraiment énorme. Et c'est sûr qu'on voit là que les bonus sont maintenant vraiment... On voit le retour des bonus comme on n'a jamais vu, même avant la pandémie.
Voilà, merci Nicolas pour cette analyse et à la semaine prochaine.
Ouais, un plaisir. À la semaine prochaine.
programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Dans la mer Cobes.
Dans la mer Cobenz, chantée par Benjamin Biolay. Aujourd'hui, jour de fête nationale, eh bien, l'Alliance française de Sydney organise une fête toute la journée afin de célébrer la francophonie. Il y a aussi ce soir, entre autres, une tombola. Le premier prix, accrochez-vous bien à gagner. Le premier prix, eh bien, est un voyage pour deux personnes en Nouvelle-Calédonie. Rien que ça. La présidente Lynn Tuit nous détaille tous les événements prévus en ce Bastille Day interview.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'est la fête nationale française et partout en Australie, comme c'est la tradition, eh bien, sont organisés des Bastille Day. Après deux années largement impactées par le Covid, eh bien, pour la première fois cette année, l'événement revient à la normale. Pour en discuter, nous sommes en ligne avec Lynn Tuit, la présidente de l'Alliance française de Sydney. Lynn, on dit que l'événement revient à la normale, mais en fait, à la normale ou presque, hein, puisque cette année, vous organisez à Sydney un Bastille Day un peu différent des années précédentes. Expliquez-nous.
Oui, exactement. Nous sommes ravis que nous puissions retourner à notre fête traditionnelle, Bastille Day. Et cette année, nous avons changé un peu le thème pour célébrer la culture de tous les pays francophones. Nous aurons, par exemple, un cocktail de la Nouvelle-Calédonie, Calédonie Colada, des crêpes tropicales aux ananas parmi d'autres spécialités du Pacifique. Il y aura aussi des concerts, y compris, par exemple, un concert avec Moussa Diakité, le guitariste malien, qui est très célèbre. Il a collaboré avec beaucoup d'autres musiciens très célèbres comme Salif Keita. Et à part la musique africaine, nous aurons, comme d'habitude, les danseuses du cancan. Ce ne serait pas Bastille sans les danseuses du cancan.
Évidemment.
Et aussi les danseuses de la Polynésie. Et en plus, nous allons fêter la soirée jusqu'à très tard le soir avec le DJ parisienne, Madame Rêve.
Donc, vous mettez en avant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. J'imagine également peut-être le Canada français, la Suisse, la Belgique, l'Afrique, tous ces pays francophones.
Pas tous les pays francophones parce que nous n'avons pas assez de place au lieu Lagos, dans les Rocks de Sydney. Nous avons un espace à l'extérieur où on va avoir les petits stands. Mais nous avons fait un grand effort sur le Pacifique parce que ce sont nos voisins. Ce qui sera très intéressant, nous aurons un tombola pour gagner un voyage en Nouvelle-Calédonie,
super,
qui est une destination exceptionnelle qui vient de rouvrir aux Australiens. Je suis allée avant la pandémie, j'ai hâte d'y retourner moi-même. Et le Tahiti aussi est une autre destination qui va être mise en vedette lors de la soirée. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne viennent que pour le tombola, parce que nous avons beaucoup de prix exceptionnels à gagner.
Vous parliez de Moussa Diakité, qui est chanteur, guitariste, artiste, qui va performer à Bastille à Sydney le 14 juillet prochain. Et justement, nous avons la chance sur SBS France d'avoir une interview avec Moussa Diakité, une interview donc que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, sur notre site internet sbs.com.au/french. Et Lynn, expliquez-nous pourquoi cette année particulièrement, c'était important pour vous de mettre en place ce nouveau thème.
Cette fête est très importante pour nous parce que c'est la première fois depuis 2 ans qu'on aura la possibilité de se voir ensemble, de discuter, de manger, de boire et d'être ensemble dans les milieux franco-australiens et de célébrer cet événement avec nos pays voisins et plus loin comme le Mali. Très important. C'est justement ça qui a manqué un peu à l'Alliance française de Sydney. C'était la possibilité de voir les gens sur place pour les manifestations, parce que Sydney, comme tout le monde sait, était en confinement pendant une moitié de chacune des dernières années. Nous allons revenir en force cette année.
En force. C'est la première fois qu'il y a un thème pour Bastille Day.
Ah oui, nous avons eu avant les traditions, les thèmes traditionnels, les danseuses du cancan, évidemment, les chansons nationales, les hymnes nationaux. Cette année, c'est la première fois que nous avons ce thème-là. Nous avons pris la décision d'élargir le thème pour encourager des gens de tous ces pays-là qui sont francophones de venir participer à la soirée avec nous. Et nous espérons qu'on va avoir beaucoup de gens, parce que l'Australie, c'est un pays multiculturel, mais la France aussi est un pays multiculturel, où on trouve toutes ces cuisines, tous les aspects culturels en France aussi.
Et l'événement Bastille Day à proprement parler, vous nous avez rapidement parlé du lieu où cela va se passer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça va se passer, les dates, les événements sur place?
OK, la soirée commence à 17h et ça termine très tard le soir. Évidemment, les gens peuvent venir après le travail ou ils peuvent aller dîner dans le coin et revenir après, mais nous avons assez à manger sur place. Les gens peuvent manger les crêpes, d'autres plats aussi qui sont vendus sur place, les boissons, les cocktails, etc. Nous aurons le tombola. Il faut rester un peu tard la soirée, il faut pas partir trop tôt, au cas où vous êtes le gagnant chanceux. Les billets sont disponibles sur le site web de l'Alliance française de Sydney. Ils ne sont pas chers, entre $20 et $25 pour les billets. Et le tombola, c'est un prix incroyable, c'est seulement $5 pour gagner un voyage en Nouvelle-Calédonie. C'est
ça
vraiment
vaut le
pas beaucoup. Et on a plus qu'une douzaine de prix pour le tombola, donc les gens ont une forte possibilité d'être l'heureux gagnant ou un des heureux gagnants.
Et la journée dont vous nous parlez, c'est celle du jeudi 14 juillet ou plutôt le week-end, le samedi 16 juillet?
Non. Nous avons la chance que ça soit que jeudi cette année, le 14 juillet, ça soit un jeudi. Et c'est dans le Lagarde, dans les Rocks, donc c'est facile à y aller, soit en train, soit pour les gens qui travaillent dans en centre-ville, c'est facile aussi d'y aller à pied, ou aussi en ferry. C'est un lieu très, très connu, historique, et c'est où on a toujours eu notre fête depuis très longtemps maintenant. C'est notre partenaire avec qui on travaille depuis très longtemps. Il y a une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Nous espérons que tout le monde va venir, comme d'habitude.
Et vous savez s'il y a d'autres événements qui sont organisés dans Sydney entre le 14 et le 17 juillet pour célébrer Bastille Day?
Il y a plein de concerts, de dîners. Il y a beaucoup de restaurants qui proposent des menus Bastille Day. Il y a aussi, d'habitude, il y a le festival dans les Rocks qui va avoir lieu le week-end. Il y a aussi, parce que tous les jours, on reçoit des propositions des gens qui souhaitent avoir un menu pour Bastille Day. Et si les gens préfèrent aller manger en avance, ils peuvent venir à notre fête après. Mais il faut être en temps pour le tombola. Hein. Il ne faut pas venir trop tard parce que sinon, c'est raté.
Si on fait un petit bond dans le temps, je sais que le 14 juillet 2022 n'est même pas encore passé, mais est-ce que vous avez déjà des idées de thèmes pour le 14 juillet 2023?
Ah, on va voir comment ça se passe cette année. Et si ça se passe bien, vous avez mentionné d'autres pays qui ne sont pas présents cette année parce qu'on n'a pas assez d'espace pour tout le monde. On pourrait élargir notre fête de la Bastille pour inclure beaucoup d'autres pays. Francophone, pourquoi pas?
Je m'éloigne un petit peu de Bastille Day et là, je vous pose une question en tant que présidente de l'Alliance française de Sydney. Est-ce que vous avez des projets à l'Alliance française dont vous voudriez nous parler?
Mais on a toujours des projets. On a toujours des projets. Nous avons toujours des cours, comme d'habitude, pour apprendre le français pour les gens qui souhaitent maintenir le français. Nous sommes en train de planifier un cours de cuisine des pays francophones. Et nous avons une de nos profs qui va collaborer avec nous pour monter un cours de cuisine en français avec les influences arabes dans la cuisine française. Tout le monde est au courant des tagines, des couscous. C'est une façon d'apprendre les mots pour la cuisine parce qu'on s'est obligé de dire rouler la pâte, manger évidemment ce que vous avez créé. Mm-hmm. Et ça, c'est un projet pour pour le prochain trimestre. L'Australie est un pays multiculturel avec les influences un peu de partout, mais la France aussi est un pays multiculturel et ça se voit dans la culture, mais aussi dans la cuisine. Il n'y a pas une meilleure façon d'apprendre une langue pour les mots de la cuisine en faisant la cuisine.
Merci beaucoup, Lynn. Merci pour cette interview.
Merci beaucoup et j'espère que tout le monde va venir. Merci beaucoup, Marianne.
Best idée à Sydney le jeudi 14 juillet. Et on le rappelle, le Grand Prix de la Tombola, pour un billet de 5$, vous pouvez gagner un voyage pour deux personnes, j'imagine, en Nouvelle-Calédonie.
Merci.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.
On l'a entendu dans l'interview avec Lynn Tuit, l'un des artistes en représentation à Sydney aujourd'hui est Moussa Diakité. Nous avons pu discuter avec lui avant le concert de sa vie, de sa musique, de ses projets. Interview.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Nous étions en ligne il y a quelques instants avec Lynn Tuit, la présidente de l'Alliance française de Sydney, qui nous parlait de Bastille Day, qui va se tenir à Sydney donc le 14 juillet prochain. Et Lynn nous parlait du musicien, chanteur, guitariste Moussa Diakité. Et nous avons la chance d'être aujourd'hui en ligne avec Moussa. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Et vous, Moussa?
Oui, je me porte bien. Merci.
Merci de nous accorder cette interview aujourd'hui. Moussa, vous êtes guitariste, chanteur, compositeur. Vous êtes né au Mali. Si mes informations sont bonnes, vous êtes venu en Australie en 1996. 1995. Et si mes informations sont meilleures cette fois, poursuivre une femme.
Oui.
Ça, racontez-nous votre histoire.
Ça, c'est vrai. Mon histoire, c'était que quand je tournais, parce que je jouais avec Salif Keita, on a tourné à travers le monde et après, on est venu ici en Australie. Bon, on a joué à Enmore Theatre. Ça, c'était dans les années 1992-93, comme ça. Il y avait un orchestre africaine qui jouait. Donc moi, j'étais dans la foule, j'ai commencé à danser avec ma femme, je ne savais même pas quelle allait être ma femme. Bon, on a commencé à danser et puis moi, je lui ai dit, toi là, moi je veux te marier. Hein. Elle me regarde, elle pense que je suis là en train de dire des sottises quoi. De toutes les mille manières, j'ai pris son numéro de téléphone et son adresse parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'email. On a fait à peu près une année et demie, on se correspond. Et après maintenant, elle a décidé de dire que non, vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. Elle veut réaliser sa vie. Bon, donc si moi, je veux venir ici en Australie vivre avec elle, c'est encore, on va arrêter la relation. Bon, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de venir en Australie, et on s'est mariés.
C'est une très belle histoire.
Ouais.
Et la musique, ça s'est passé comment?
La musique, ça s'est bien passé parce que quand mon premier groupe s'appelait Badema, en ce temps, c'était un gros orchestre. Il y avait à peu près 8 à 9 personnes là-dedans. Il y avait des ventistes, tout ça là. Ça tournait très bien. À un moment donné, après quoi, maintenant, j'ai commencé à travailler comme un assistant dans le nursing home. J'ai abandonné la musique un peu et puis j'ai commencé à travailler. En ce temps-là, les gens ici ne connaissaient pas la musique africaine parce qu'il faut jouer le rock, le jazz, le blues, le R&B, tout ça là. Moi, je joue ça, mais vraiment, j'ai dit, OK, si c'est comme ça, je vais travailler. J'ai commencé à travailler, mais ma première profession, c'est la musique. Donc, il faut que je me retourne envers la musique pour jouer. J'ai reformé le groupe again, encore, et je l'ai appelé Wasado. Wasado veut dire que dans la joie, quoi. Quand tu es dans la joie, tu es dans la joie. Et c'est parti comme ça.
Et ce groupe, c'est toujours celui avec lequel vous performez aujourd'hui ?
Ouais, ce groupe, c'est toujours avec les mêmes musiciens, c'est le même groupe.
Vous venez de sortir l'album Canafo, au sein duquel il y a la chanson Danaya. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Danaya.
Ok.
Moussa, d'où vous vient votre inspiration aujourd'hui?
Bon, mon inspiration, c'est que pendant le Covid, là, ça m'a poussé beaucoup à travailler, à faire de nouveaux morceaux encore, et même je suis prêt à faire sortir un autre CD et un autre album. Ça, je vais commencer à le produire en août. Donc l'inspiration vient comme ça, je prends ma guitare et puis je pense sur les trucs de la vie. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la mort aussi, parce que j'ai perdu mon père et ma mère, donc j'ai écrit un morceau pour eux. L'inspiration vient comme ça, mais moi, quand j'écris, je prends la guitare d'abord. Je cherche la mélodie dans la guitare. Et après, maintenant, je cherche les mots qu'il faut, les phrases de la chanson pour concorder avec la guitare.
Après 27 années en Australie, vous êtes toujours inspiré par l'Afrique, l'Europe, la francophonie, ou vous voyez des nouvelles inspirations australiennes?
Et même dans mon nouveau CD que je vais faire, j'ai un morceau en français, c'est « La paix dans le monde ». J'ai écrit ça, bon, donc on va commencer les répétitions au mois de juillet. Donc on va commencer le recording en août, ici en Australie. Et après, maintenant, on va au Mali. Je vais mettre des instruments traditionnels que je veux collaborer avec ma musique. Et voilà, de là-bas, on part, quoi.
Cette chanson française dont vous nous parlez, vous avez une guitare à côté de vous? Vous voulez nous jouer en exclusivité un petit morceau?
Ça fait comme ça. La vie est compliquée, les gens ne savent pas que faire. Qu'est-ce qui va plus dans le monde? La vie est difficile, les gens ne savent pas que dire. Qu'est-ce qui va plus dans le monde? Quelque part il y a la guerre. Souvent la famine, nous voulons pas de cela sur cette terre. Quelque part il y a la guerre, je dis bien souvent la famine, nous voulons pas de cela sur cette terre. Nous voulons paix et justice dans ce monde. Et ça continue comme ça, quoi.
Merci Moussa, merci pour ce beau moment.
Mais je n'ai pas totalement fini parce que je dois faire les arrangements et tout ça là, quoi.
Au Bastidé, le 14 juillet prochain, vous serez sur scène avec votre groupe.
Bon, je pense que nous allons jouer nos compositions parce que les deux albums que j'ai fait, le premier album s'appelle Donko Moja, le dernier album c'est Canafo, donc on va prendre des morceaux dans ces deux albums là pour jouer, quoi. Je vais mettre un morceau français. Et ce morceau, ça s'appelle Adam et Ève au paradis. Ça, je vais jouer ça aussi. Mais surtout mon répertoire.
En tout cas, on espère que vous allez bien vous amuser au Bastidé à Sydney.
Je suis très, très, très content. Et puis, j'attends ce moment-là même pour faire une bonne performance. On va bien jouer.
Merci beaucoup, Moussa Diakité. Passez une excellente journée.
À vous de même. Passez un très bon moment à Melbourne et j'espère qu'on va se revoir vis-à-vis.
Maintenant qu'on peut.
Ouais, Inch'Allah.
Merci.
Merci beaucoup à vous de même.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
minutes, c'est l'heure du rappel des titres. Le taux de chômage australien a atteint son plus bas niveau en un demi-siècle à 3,5%. Anthony Albanese au Fidji afin de renforcer ses relations avec ses voisins du Pacifique. Un couvre-feu au Sri Lanka pour tenter de contenir les manifestations. Joe Biden en visite au Moyen-Orient pour la première fois depuis son élection, c'était il y a 18 mois. Et en sport, le Danois Jonas Vingegaard remporte la 11e étape du Tour de France. Il prend le maillot jaune qui était jusque-là sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar. Il est 13h58, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je suis Marianne Murat, ça m'a fait très plaisir de passer cette heure entière en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est samedi, ce sera avec moi encore à 13h, même fréquence. Ensuite, dimanche, ce sera Jean-Noël Ducasse qui présentera le programme. La chanson qui suit, c'est Stone de Starmania. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.